Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vous écoutez Nude, le podcast qui explore le monde actuel à travers vos témoignages sans filtre. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rien manquer des épisodes à venir. En attendant, voici maintenant le troisième épisode de Serial Tinder. Aujourd'hui, un quart des Français a déjà été inscrit sur une appli de rencontre et près de la moitié pour les moins de 34 ans. Avec cette série de témoignages, j'ai voulu plonger dans cet univers de la rencontre dématérialisée, racontée par ceux qui l'ont vécu, tous de manière très différente. Ils se sont mis à nu pour nous dévoiler leurs doutes et leurs moments de grâce. En filigrane, ils interrogent la séduction à l'heure d'Internet et ce que ces applis disent de la rencontre amoureuse ou pas au XXIe siècle. Aujourd'hui, c'est Olivier qui nous raconte son histoire. En s'inscrivant pour rigoler avec une amie, il ne pense pas s'embarquer dans un jeu dont il va mettre plusieurs années à comprendre les règles, avant de développer un œil critique sur les applis et de se décider à les utiliser à sa manière. Comment maîtriser les lois de ce nouvel art de la drague? Comment établir un lien dans ce monde digital qui paradoxalement nous déconnecte les uns des autres? Et une fois que l'on parvient à avoir du succès, comment échapper à l'illusion de l'infini qui nous fait croire que la prochaine rencontre sera toujours mieux? Est-ce que tu te souviens la première fois que tu t'inscris sur Tinder?
Oui, complètement. On est à l'époque en avril 2015, quelque chose comme ça. Et ça doit faire vraiment beaucoup plus que 6 mois que je suis célibataire, mais célibataire bien dans le dur. Je sors à l'époque d'une relation qui m'a laissé pas mal de traces. Donc je me suis un peu retrouvé dans une espèce de caverne de solitude. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah maintenant, il est un peu temps d'en sortir. Et je me souviens très bien, je suis avec une amie qui habite à Montpellier. On est au téléphone tous les deux. Elle me demande comme d'habitude, est-ce que t'as quelqu'un? Je dis, ah non, non. Puis là, ça fait vraiment, vraiment longtemps. Et du coup, la question, le sujet Tinder vient sur le tapis. Et l'un ou l'autre, je me souviens plus lequel, dit, vas-y, viens, on installe, on voit à quoi ça ressemble. Donc on passe un petit moment à essayer de se créer un profil, à mettre une photo, à télécharger, à essayer de à flipper parce qu'en fait, quand tu t'inscris via ton compte Facebook et tu dis « Mon Dieu, j'espère que tous mes contacts ne vont pas voir que j'ai installé ce truc-là. » Et tu commences ensuite à swiper. Et comme on était tous les deux en visio, on pouvait se montrer des photos et on disait bah, « T'en penses quoi ? Lui, oui, elle, non, machin. » Et oui, non, j'ai un match en plein milieu de la soirée. Et là, vraiment, je suis complètement déstabilisé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? Mais très rapidement, j'ai une proposition pour rejoindre un site payant pour voir des striptease. Et j'ai éclaté de rire. Et c'était ma première rencontre, mon premier échange sur une application de rencontre. Et en même temps, je pense que j'ai pris conscience de, quelque part, de la difficulté de l'exercice et du fait que, en s'inscrivant en 2015, alors que l'application a été populaire 1 ou 2 ans avant, tout le monde, quelque part, a les règles du jeu et moi, je débute. Mes tout débuts sur Tinder, je sais pas très bien par quel bout prendre l'application. Il n'y a pas un côté très spontané, quoi. T'as juste un écran qui dit « it's a match », ok. Et après, qu'est-ce qu'on est supposé faire? Et juste le fait de se poser la question, ça t'inhibe un petit peu et tu te poses la question de « est-ce que c'est à moi de lui parler ou c'est à elle de venir me parler ou... ?» Et si je vais lui parler, qu'est-ce que je peux lui dire?
Par analogie avec la vie réelle, ça te paraît pas les mêmes codes de séduction, c'est ça?
Bah non, parce que dans la vie réelle, quand tu rencontres quelqu'un, tu te dis rarement « cette fille me plaît, il faut que je trouve un moyen d'avoir une phrase d'accroche pour établir un contact ». Exemple, dans la vraie vie, quand t'arrives à une soirée, de base, il y a déjà un certain nombre de dénominateurs communs que tu peux juste utiliser, mais juste en disant « bah enfin je rencontre cette personne, on est à un anniversaire de machin, comment tu connais machin ?» Ensuite, qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'as à peu près la même tranche d'âge. Enfin, tu vois, t'as déjà des trucs spontanés. Là, t'es un peu lâché dans le vent. T'as pas nécessairement de potes en commun, t'as pas nécessairement de goût en commun, t'as pas nécessairement d'informations, c'est un peu galère.
Ce qui est compliqué aussi, c'est que quand on voit quelqu'un qui nous plaît, par exemple, à une soirée, on va lui parler, il n'y a pas une banderole qui dit « Vous êtes sur une appli de rencontre, vous vous parlez dans une optique de séduction », tu vois.
Exactement.
Alors que là, les cartes sont claires et du coup, c'est un peu gênant aussi.
Bah, je pense que ça te renvoie à l'enfance quand tu es, en tant que petit garçon, tu parles à une fille et que tout le monde te dit « Où les amoureux ?» C'est un peu ça. Dans la vraie vie, le moment finalement où tu abats tes cartes et tu dis « En fait, tu me plais », c'est le tout dernier moment. Et tu as toute cette phase où tu es dans cette espèce de situation qui est un peu excitante, où il y a des regards, il y a des rires. Et toute cette phase-là, en fait, tu l'as pas nécessairement sur une application. Et la valeur de « machin, t'as mis un cœur, tu l'as mis un cœur et vous vous matchez », qu'est-ce que ça signifie exactement ?
À ce moment-là, t'es un peu déstabilisé, t'as un peu de mal à engager la conversation, mais t'as aussi du mal à avoir des matchs, qui sont la première étape pour pouvoir discuter avec quelqu'un.
À ce moment-là, j'ai 34 ans, j'ai déjà eu beaucoup de relations, des relations longues, des relations beaucoup plus courtes. Enfin, je considère que je sais ce que c'est que rencontrer une fille et avoir une relation quelle qu'elle soit avec elle, quoi. Et là, j'ai un peu l'impression de revenir à cette époque terrible du collège-lycée où vraiment ça marche pas, personne ne semble intéressé par ma petite personne et j'ai pas de like, j'ai pas de match et je ne parle à personne et du coup qu'est-ce que je dois faire ? Donc au tout début ça commence comme ça. En fait, j'ai un peu l'impression que les filles avec lesquelles je match, avec lesquelles donc du coup j'ai l'opportunité de discuter, bah c'est un peu des choix par défaut, c'est-à-dire que au bout d'un moment, à force de ne pas avoir de match, tu te dis bah, au tout début, je vais être un peu sélectif, je vais juste mettre un cœur sur les filles que vraiment je trouve à tomber. Puis au bout d'un moment, tu te dis bah, je vais mettre les filles jolies. Puis ensuite, tu te dis bah, je vais mettre celles qui ont un charme. Et puis au bout d'un moment, tu te dis bah, je vais faire celle-là, elle a l'air marrante. Et puis au bout d'un moment, tu te dis bah, vraiment, tu arrives à faire droite jusqu'à ce que tu aies un match. Ce qui est vraiment pas une bonne chose à faire. Hein. Je veux dire, encore une fois, dans la métaphore de la soirée, tu baisses jamais tes critères. Ou alors c'est parce que t'es bourré et que t'as vraiment envie de rentrer avec quelqu'un, mais dans la vraie vie, quand t'es lucide et que t'es pas alcoolisé, tu n'as pas ce réflexe-là. Donc tu devrais pas te dire bah c'est si bon, ok, elle est pas ouf, mais bon, quand même, on va tenter pour voir si là ça marche, quoi. Et ensuite tu passes à la deuxième phase où tu discutes et tu sens que là aussi t'es dans une position où la fille, tu la sens un peu sur un piédestal, elle a beaucoup de, tu sens qu'elle est un peu plus sollicitée que toi. T'as vraiment personne d'autre à qui parler et tu dis bah là c'est un peu la galère en fait. Du coup, comme ça ne marche pas, je demande autour de moi et comme j'ai beaucoup d'amis filles, je montre mon profil en disant mais pourquoi est-ce que je galère autant ? Et quand elles regardent mon profil, elles me disent mais en fait tes photos ne vont pas. Il faut que tu changes ces photos. Si l'objectif c'est de te mettre en valeur, bah ça marche pas. Bah, utilise plutôt celle-là.
C'était quoi qui n'allait pas selon elle ?
Mais incapable de te dire. Vraiment, pour moi, c'était une photo de moi, une photo de moi, une photo de moi. Et à la place, j'avais une photo de moi, une photo de moi, une photo de moi.
En tout cas, ça marche. Grâce à ces nouvelles photos de profil, gros succès. Et tu te retrouves avec 50 matchs. Sauf que là, ça pose un autre problème.
Bah, quand t'as 50 matchs, tu fais pas de choix. C'est ça le truc, parce que tu trouves toujours une bonne excuse pour ne pas engager la conversation avec ces 50 personnes-là et te convaincre que la bonne personne, t'as pas encore matché avec elle et qu'elle ressortira du jeu de match que t'as sur l'autre écran. C'est l'illusion de l'infini qui te laisse entendre que la prochaine sera la bonne. Si tu te dis toujours la prochaine sera la meilleure, ça peut pas marcher. En fait, t'as d'un côté des profils qui défilent et d'autre part, un espace conversation avec les gens avec lesquels t'as matché. Et le problème, c'est que c'est beaucoup plus simple de faire défiler des profils et de mettre des croix et des cœurs que d'engager la discussion. Et au final, ce type d'application qui à la base devrait te permettre de rencontrer des gens devient une espèce de jeu où tu vois des profils défiler et tu mets oui, non, oui, non. Il y a vraiment eu des moments où tu sens que ça devient un peu obsessionnel parce qu'en fait, ton application, tu la dégaines n'importe quand, que ce soit dans le métro, que ce soit quand t'attends un ami à la sortie du métro parce qu'il est en retard, que ce soit chez toi. Et si t'y prends pas garde, tu restes dans cette partie un peu ludique et qui te permet pas du tout d'avancer. J'ai un très bon pote qui, un jour, m'a sorti son application et il me dit « Ah, mais moi non plus, ça marche pas du tout, regarde. » Et il me sort son application et je me rends compte que il a des centaines de profils avec lesquels il a matché, mais avec qui il a jamais parlé. Et en remontant dans le temps, je me rends compte que ça fait 3 ou 4 ans qu'il a inscrit, enfin qu'il s'est inscrit sur l'application, et qu'il a des gens avec qui il a jamais discuté, et que comme il a voyagé un peu aux quatre coins du monde, il a des profils du Mexique.
C'est un peu comme une collection, ça lui sert à quoi ?
Exactement. Et je me dis, bah, quel est l'intérêt de collectionner tout ça ? Donc, moi, je pense qu'il y a des gens, ils sont dessus juste pour swiper, et ils veulent pas engager de conversation. Mais quand toi, tu te dis, bah, je veux pas y passer trop de temps et je veux rencontrer quelqu'un, bah oui, le but du jeu, c'est d'en sortir.
Du coup, tu commences à te poser des questions, tu lis pas mal de choses sur l'appli, et en faisant ta propre analyse, en fait, de son fonctionnement, ça va t'aider à comprendre un peu mieux ce que tu veux.
Quand tu commences un peu à gratter et à regarder derrière, bah, tu te dis, attends, là, j'utilise un outil, mais en fait, la finalité qu'on m'a vendue au tout début à travers le discours marketing, mais en fait, c'est pas ça du tout. Ça repose, Tinder et Apple et toutes ces applications-là, sur le fait que tu as un profil Facebook. Facebook, c'est une entreprise très particulière qui a construit son modèle économique sur l'utilisation de données personnelles, pas toujours à des fins très nobles. Et du coup, les sociétés qui s'appuient sur ton profil Facebook pour te proposer des services, pourquoi est-ce qu'elles seraient plus propres, plus responsables ? Je pense pas. Donc, c'est hyper intéressant de regarder le fonctionnement du truc. Regardez comment ça a été construit, par qui ça a été construit. Tinder, ça a été construit par des mecs blancs. Je crois qu'il y avait une nana, et quand elle s'est barrée, elle a fait état de fait de harcèlement sexuel à l'intérieur de la boîte. Et du coup, si ces mecs-là, ils créent une application pour que y ait des rencontres, mais quel type de rencontre ils veulent pour toi ? Et si tu réfléchis, tes utilisateurs, t'as pas envie qu'ils aillent voir ailleurs. Donc partant de là, tu vas pas leur proposer des solutions très simples. Au contraire, tu vas créer un truc sur lequel ils swipent dans tous les sens, ils restent accrochés. Tu vas leur proposer un truc où, oui, ils vont avoir un espace de conversation, mais ils vont avoir l'opportunité de discuter avec tellement de personnes qu'au final, il y aura probablement peu de rencontres. Et s'ils arrivent à la rencontre, bah, en fait, il y aura tellement de volume qu'ils diront, bah, si cette rencontre elle foire, c'est pas grave. Donc ils ont intérêt à ce que certains ça marche et d'autres non, mais ils n'ont pas intérêt à te filer les clés dès le début. Encore une fois, je reviens à Facebook, mais Facebook et Instagram, ils ont développé des techniques pour te faire passer le plus de temps possible sur les trucs qui servent à rien. C'est les mêmes techniques qui sont utilisées sur les sites de rencontres. Donc à partir de là, tu commences à te poser des questions et te dire, bah, en fait, je vais peut-être définir mes propres règles, jouer le jeu selon mes règles, et puis on verra bien. Je me suis dit, en fait, comment est-ce que je peux utiliser cet outil pour atteindre mon objectif plutôt que de subir l'application et d'aller dans une direction qui me convient pas ? Et j'avais commencé à me dire, bah, c'est pas compliqué. Déjà, je vais arrêter de passer du temps sur la partie swipe. Une fois que j'ai 3 personnes avec qui j'ai un match, je parle avec ces personnes et je vois où ça me mène. Et si elles arrêtent de me parler ou si je rencontre que c'est pas concluant, bah, à ce moment-là, je me remets sur la partie où je peux swiper, juste en ayant cette espèce de discipline. Et en fait, ça m'a permis effectivement d'aller beaucoup plus vite. I'm sorry. I don't want to be
an emperor. That's not my business. Donc tu décides d'arrêter de swiper frénétiquement et de te concentrer sur les personnes avec qui tu as matché et qui sont déjà dans ton espace de discussion, et tu commences à faire des dates. Et là aussi, ça ressemble beaucoup à un jeu.
Je sais pas si tu te souviens, dans Bref, t'as un truc où t'as le narrateur Kian Kojandi et la fille qui séduit, où ils vont au restaurant et on a joué au jeu qui est le plus vieux jeu de l'histoire de l'humanité, et il sort la métaphore du jeu de la séduction, c'est un espèce de jeu de société qui mixe tous nos jeux des années 80. Il y a à la fois des cartes, il y a une petite bille avec un petit labyrinthe, il y a des trucs qui font tomber. Et à la fois, il se vend et à la fois, il essaie de connaître l'autre et il note les trucs genre, ok, donc elle s'appelle Alice, elle joue de la guitare, sa petite nièce s'appelle machin. C'est exactement ça, c'est un jeu.
Et du coup, tu vas pas en sortir tout de suite de ce jeu. Tu fais pas mal de rendez-vous où tu n'as pas de coup de cœur, mais à chaque fois, tu passes un moment plutôt sympa. Sauf que parfois, rencontrer des inconnus, ça peut réserver des surprises.
C'était tout début de l'année. Bah oui, c'était le 14 février 2018 et la Saint-Valentin. En fait, j'ai un match quelques jours avant avec une fille qui a l'air très, très douce, très gentille, très réservée sur les photos. Et je lui envoie un message, elle me répond, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je me dis, bah tiens, elle n'a pas répondu à mon message, elle me fait une question un peu ciblée. Je lui dis, bah, je suis juriste. Elle me dit, t'habites où ? À Paris. Elle me dit, c'est quoi tes centres d'intérêt ? Je me dis, bah, en fait, là, on est dans une espèce de question-réponse qui est un peu bizarre. Ça te donne l'impression d'avoir quelqu'un avec une feuille avec des cases à cocher. Et ensuite, elle me dit, tu fais quelle taille? Et je dis, écoute, je fais 1m78. Elle me dit, d'accord. Elle me fait, est-ce que tu es dispo pour un verre? Et là, je fais, mais alors là, vraiment, on a, sur la base de 4 questions avec des réponses quand même très neutres, on est arrivé à ce niveau-là de... Ça me plaît pas trop, mais bon, après tout, on verra au moment du verre, quoi. Et là commence une partie un peu compliquée où elle veut qu'on se voit, mais elle ne veut pas que ce soit dans Paris. Elle veut que ce soit à l'extérieur de Paris, à côté de chez elle. Et moi, c'est vraiment à l'opposé de là où j'habite. Enfin, c'est compliqué pour moi de m'y rendre. Et surtout, elle se montre assez inflexible. C'est vraiment là ou pas autrement, quoi. Et elle essaie de me faire miroiter qu'il se passera un truc entre nous si je viens là. Et je fais, mais c'est encore plus sinistre, en fait, comme message. Je veux pas rentrer là-dedans, quoi. En fait, c'est pas la question du lieu, mais c'est vraiment plutôt la question, je me dis, mais en fait, comment je peux me projeter avec une fille comme ça si le lieu de notre premier rendez-vous commence à devenir une espèce d'objet de négo où elle fait pas de compromis? Et je lui dis, écoute, laisse tomber, on en reste là. Et là, elle est beaucoup plus souple, et après beaucoup d'échanges, on convient finalement d'un verre proche de mon boulot, mais quand même pas tout à côté. Et surtout, hasard du calendrier, une des seules dispo que j'ai, c'est le soir du 14 février. Donc la Saint-Valentin, donc avec elle. Et du coup, évidemment, c'est à moi de choisir le resto. Je regarde sur lafourchette.com pour voir un resto ouvert. Il y a que des restos qui coûtent une fortune pour la Saint-Valentin. J'y vais en Uber. Le chauffeur Uber me demande ce que je vais faire. Je lui dis, bah, j'ai un rendez-vous. Et là, le mec se sent pousser des ailes et me se dit, bah, je vais le coacher. Je vais être coach en séduction et je vais expliquer ce qu'il doit faire. Mais vraiment, je pense que c'est voué à l'échec cette soirée. La fille se pointe avec 45 minutes de retard. Ce qui est très très long, hein, quand tu sais pas exactement ce que tu fous là et que t'attends quelqu'un. Et elle commence la soirée en me disant « je me suis garé sur une place interdite ». Et voilà. Et elle se met à vider son sac et à parler. Et en fait, je me retrouve avec quelqu'un qui n'est pas du tout la personne que j'ai cru percevoir à travers les photos. Et là, j'ai vraiment une grande gueule très rentre-dedans, donc ce qui me fait marrer. Mais je me dis « ah oui, vraiment, il va vraiment vraiment rien se passer ». Et très rapidement, j'ai la question « mais... quel est ton problème avec Paris, en fait? Pourquoi est-ce que tu refuses d'avoir des rendez-vous sur Paris ?» Et donc, c'était, ben moi, j'ai une voiture, c'est très compliqué pour se garer dans Paris, donc je veux pas que ce soit à Paris. Et je lui dis, mais donc, du coup, tous tes rendez-vous que tu as, ils se font en banlieue. Elle me dit, bah oui, oui. Elle m'a dit, mais des fois, il y a un mec, une fois, il est venu, et franchement, il me plaisait pas, donc au bout de 5 minutes, j'ai dit, j'étais fatigué, je me suis levé, je suis parti. Je lui dis, mais en fait, cette personne a peut-être traversé l'Île-de-France. Enfin, c'est vraiment pas sympa, quoi. Elle me dit, bah c'est pas grave, c'est les filles. Les filles choisissent, les filles décident. Et je pense qu'au bout d'une grosse heure, elle s'est levée, après m'avoir répété 2 fois « je suis garé sur une place interdite », elle s'est levée, mais comme un diable sur sa chaise, en disant « il faut que je parte, j'ai peur que ma voiture soit enlevée ». Et elle s'est levée tellement vite, elle est sortie du restaurant pour aller payer, que la table à côté m'a regardé et j'ai dit « on est en train de vivre un date un peu catastrophique, je vous le cache pas, c'est compliqué, mais voilà ». Je me lève, je vais payer, vraiment, là pour le coup, je me suis fait zéro scrupule, 50-50 chacun. On sort, et là, il fait froid, 14 février, et elle me dit, je ne sais plus où j'ai garé ma voiture. Étant quelqu'un de gentil, je me suis dit, je vais pas la laisser dans un endroit qu'elle connaît pas, sans savoir où est sa voiture. Je vais l'aider, quoi. Et on commence à marcher, et son téléphone sonne, elle décroche, et c'est son frère au téléphone, qui lui annonce que il vient d'avoir une petite fille. Et donc je me retrouve embringué dans une conversation qui me dépasse et ne m'intéresse pas du tout, où elle est là genre ah, elle demande plein de détails sur l'accouchement, mais surtout point important, elle nous perd dans la ville. On commence à marcher et je ne sais pas où nous sommes, je ne sais pas où nous allons, et je suis obligé de lui faire confiance sans savoir jusqu'où on va. Et surtout, il fait très froid et je grelotte. Et vraiment, au bout d'un moment, elle finit par raccrocher. Et elle lève la tête en disant « mais on est où ?» Et là, je fais « mais je sais pas, moi, depuis tout à l'heure, je te suis parce que je ne sais pas nous-mêmes, moi-même où on se situe. » Elle me dit « mais c'est pas ça du tout, on rebrousse chemin. » Donc, on rebrousse chemin, c'est très long. Là, vraiment, c'est le stade d'assaut où moi, j'ai plus rien à dire. C'est comment, c'est un peu chiant. Et on remarche, on retourne devant le resto où on était sorti. Et là, elle réalise que sa voiture était vraiment juste en face, dans la rue perpendiculaire. Vraiment, je lui dis « mais excuse-moi, est-ce que tu peux me ramener au métro au moins ?» Parce que j'ai un peu froid quand même. Et elle me dit, chacun sa merde. Elle fait demi-tour et elle se barre. Et là, je fais, what? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai jamais payé pour ça, quoi. Donc, j'appelle un pote sur le chemin du retour en disant, je raconte tout. Et il me dit, mais l'histoire de la voiture garée sur une place handicapée, mon gars, c'est un pipeau. C'est juste une excuse foireuse pour se barrer, quoi. Ah, je pense aussi, machin. Je balance des messages à tous les gens que j'avais prévenus de ce date catastrophique pour leur faire un débrief. Ils étaient tous morts de rire. Et au bout d'un moment, je lui balance un message à elle en disant « Écoute, je veux juste une information sur cette soirée. Est-ce que le coup de la place handicapée, c'était pour déconner ou pas ?» Et elle me dit « Pas du tout. » Elle me dit « J'étais vraiment sur une place handicapée. C'était pas un truc pour me barrer plus rapidement. J'étais vraiment hyper stressé. D'ailleurs, je pense que ça s'est ressenti pendant la soirée. » Je fais « Alors, un petit peu. J'ai vraiment senti que t'étais un petit peu sur les nerfs. » Et elle me dit quand même « Écoute, tu m'as plu. J'ai très envie de te revoir. » Et là, tu dis, alors, c'est très gentil, prenons le temps d'y réfléchir. D'accord. Et je ne l'ai plus jamais recontacté. Donc voilà, j'ai un date pourri, c'est celui-là. Je le garderai à jamais.
On rigole, et en même temps, à ce moment-là, t'en as quand même un peu marre, et tu t'apprêtes à désinstaller l'appli. Et là, il y a encore une fille dans tes matchs avec qui t'as pas encore parlé. Et tu te dis, allez, c'est la dernière, avec qui j'essaye et après j'arrête.
Elle m'envoie des messages qui sont assez longs, je la trouve très jolie, et je lui propose d'aller prendre un verre. Et elle me dit qu'elle ne peut pas, ce qui dans le langage des applications de rencontre, dit, mec, je suis pas très sûr. Et je m'étais dit un peu, bon, bah c'est dommage, mais je pense que c'est mort. Je laisse passer un ou deux jours, et je reviens son message en disant, bah est-ce que ce coup-ci, ça te dit d'aller prendre un verre? Et là, je me dis, bah on va être fixé. Et elle me répond quelque chose d'assez contradictoire. Elle me dit d'un côté, bah écoute, en fait, je suis dans une période un peu compliquée. Oui, je suis sur les applications de rencontre, je viens de m'y remettre, mais je sors d'une relation un peu difficile et je sais pas si j'ai envie d'aller prendre un verre tout de suite, rencontrer quelqu'un. Mais toujours est-il que voilà mon numéro et du coup, pas de problème pour me recontacter plus tard. Et j'étais là, bah vraiment ce message je ne le comprends pas. Je ne suis pas disponible, mais reviens vers moi quand t'as du temps. Et c'est exactement ce que j'ai répondu. Je fais là, je suis pas certain de comprendre exactement ce que tu me proposes. Et je vais plutôt faire l'inverse. Je vais te laisser mon numéro et quand toi en fait tu sauras où t'en es, bah tu me balanceras un message et on verra bien où j'en suis. Et en fait elle a vraiment laissé passer quelques jours. Elle m'a dit bah écoute, j'ai bien réfléchi. Allons prendre un verre ensemble. Ça me dit bien et très sympa. On a pris un verre ensemble en terrasse. Il faisait très beau. Elle était très jolie. Et puis tout était très sympa et très naturel. Et le truc marrant, c'est qu'en plein milieu du rendez-vous, je me suis rappelé qu'en fait, j'avais déjà matché avec elle, genre 3 ans avant.
Vous ne vous étiez pas
rencontrés? Et on ne s'était pas rencontrés parce que, comme elle était dans le milieu hospitalier, elle ne répondait pas à mes messages tout le temps, que moi, j'avais plein de gens avec qui discuter. Donc j'étais genre, bon, bah, elle est gentille, mais je ne suis pas de sa disposition. Et j'ai réalisé ça en plein milieu de notre premier rendez-vous. Et j'ai attendu un peu de temps avant de lui dire, bah, dis-moi, est-ce qu'en 2016, tu étais aussi sur Tinder? Et après ce rendez-vous où il ne s'est vraiment rien passé, elle a commencé à m'envoyer des messages et à partir de ce moment-là, on s'est écrit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pendant qu'on envoie des messages, je me rends compte que j'avais un bon Air France qui traînait et je lui raconte ça en disant mais je me rends compte que j'ai 15 jours pour prendre des billets ou moins de 15 jours, j'avais peut-être moins d'une semaine pour prendre des billets sinon ce bon expire. Et elle me répond ah bah c'est génial, j'ai très envie d'aller à Séville. Donc c'est quelqu'un, rappelons-le, avec qui j'avais vraiment pris une bière 2 heures, qui était certes très sympa, mais que je ne connaissais absolument pas. Et en discutant avec elle, je me dis, bah après tout, pourquoi pas, on verra ce qui se passe. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Donc on s'était même pas revus.
C'est un énorme pari.
C'est un moyen de te dire, bah si je résiste... Et si je me laisse pas aller, et si je saisis pas cette opportunité, peut-être que je vais passer à côté de quelque chose. Alors que si tu te dis, bah, je vais juste voir où ça me mène, bah, tu joues le jeu et c'est cool.
Tu joues le jeu et cette fois, tu gagnes surtout. Ça se passe super bien et vous vous mettez ensemble.
Depuis, tout va bien.
Ça fait combien de temps?
Ça fait 1 an et demi. Tinder, je l'ai désinstallé le soir de notre premier rendez-vous. J'étais assez fatigué, je me sentais dans un état de quête permanente de quelque chose qui n'arrivait pas, ce qui est assez fatigant. Et quand j'ai discuté avec elle, je me suis dit, bah elle, je pense qu'on va voir où ça nous mène, mais ça sera un peu la dernière personne. Et ensuite, je désinstalle le truc, quoi, et c'est ce que j'ai fait. C'est en me concentrant sur une personne à la fois, plutôt que de me perdre dans la multitude, qu'effectivement, j'ai trouvé...
L'amour.
L'amour.
Olivier est un peu pudique quand il en parle, mais il est très amoureux, je vous le confirme, et il a même emménagé avec sa copine.
Un grand merci à lui pour son témoignage. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous avez envie de me soutenir, vous pouvez me laisser des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts. Et si vous voulez m'écrire, réagir aux épisodes ou découvrir les coulisses du podcast, venez sur Instagram. Il suffit de chercher Newt Podcast. On se retrouve bientôt avec le 4e et dernier épisode de Serial Tinder. Et ensuite, je vous proposerai d'autres histoires très personnelles sur des thématiques de société. À très vite pour un nouveau témoignage sans filtre.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.